surprise, motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre tous les mardis soirs. On est de retour, une semaine de plus, voilà, en ce 16 janvier. Avec moi, Nora à la régie. Comment vas-tu, Nora ?
Ça va très bien.
Eh bien, impeccable. Lounis est également avec moi. Comment vas-tu, Lounis ?
Ça va très bien, Aurélien.
Et Hugo n'est pas avec nous. Voilà, effectif régie.
Une grande perte pour ce soir.
Exactement, voilà.
Oh, voilà, malheureusement. Ça, je sais pas.
Ça y est, ça commence. Non, Hugo qui est pris par les études, malheureusement, qui sera absent cette semaine. Donc, on va se faire une petite émission plus tranquille aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, mais on a quand même du contenu. Voilà, installez-vous confortablement. On va passer la prochaine heure ensemble à parler de MMA. Donc, comme j'ai dit juste avant, une émission plutôt tranquille aujourd'hui. On va évidemment revenir sur les combats du week-end, parce que qui dit retour de l'UFC pour cette année 2024 dit retour des débriefs, évidemment. On fera aussi une petite preview de l'UFC 297 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, on a un main event quand même atypique.
Oui, c'est voilà. Le moins qu'on puisse voilà, dire. On en parlera, mais,
exactement.
Mais il n'a aucun sens ce combat, clairement.
Ensuite, Lounis, tu nous as préparé une belle chronique mythique.
Ah, tout à fait, voilà.
Donc, je n'en dis pas plus.
Un combat qui est cher à mon cœur, ouais.
Voilà, et on terminera par un petit débat sur la place de la France en tant que nation du MMA. Donc voilà un petit peu pour l'intro. Sans plus attendre, on peut partir sur les actus.
Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Voilà, donc les actions, comme j'ai dit, dans le sommaire, on va revenir sur l'UFC Fight Night qui a eu lieu ce week-end, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Par quoi est-ce qu'on commence ? On va commencer par Taylor Lapillus ?
Oui. Ouais.
Voilà, donc Taylor Lapillus, combattant français qui s'est malheureusement incliné ce week-end contre Farid Bacharat, l'invaincu dans la catégorie des poids coqs. On a vu le combat, Lounis et moi, c'est une défaite logique pour Taylor Lapillus.
Tout à fait, alors effectivement un combat qui n'était pas très divertissant à regarder, mais bon voilà, une opposition de style comme on pouvait s'y attendre. Taylor Lapillus est très connu justement, enfin est reconnu justement pour sa boxe et son savoir-faire en pied-point. A contrario, Bacharat, lui, est un lutteur et c'est là-dessus qu'il axe quand même la plupart de ses stratégies de combat. Donc là, bon, on a eu affaire effectivement à un combat où Bacharat passait la plupart de son activité à emprisonner littéralement en lutte Taylor Lapillus en l'empêchant de s'exprimer. Donc effectivement, bah, c'était très compliqué pour Taylor Lapillus de connecter, d'essayer justement de chercher le chaos ou d'avoir une bonne fenêtre, on va dire, de contre. Et à contrario, bah, Bacharat, justement, il a obtenu la grâce des juges, justement, bah, en arrivant à le manœuvrer complètement et en le nullifiant.
Ouais, bah, je suis plutôt d'accord. Hein. Moi, en plus, je rajouterais que j'ai vraiment trouvé Farid Bacharat au-dessus, mais sur tous les aspects, en fait.
Oui, même en striking. Ouais.
C'est ça, en fait. Il y a eu notamment pas mal de... Il a pas mal joué sur les kicks, donc low, middle et high kick. Et on a vu que, même si ça faisait pas forcément beaucoup de dégâts, ça forçait Taylor Lapillus à maintenir une certaine distance de sécurité. Du coup, il pouvait pas vraiment rentrer en boxe comme il aime le faire.
Non, c'est ça.
Et voilà, donc
il se munissait, c'est ça. Il essayait de faire des combinaisons, énormément de jab et de direct. Mais voilà, on a bien vu que pour essayer de casser un petit peu plus la distance, d'essayer d'envoyer des uppercuts, des crochets, et vraiment de connecter, d'envoyer quand même de belles salves de coups, c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, malheureusement, c'est un peu ça qui démarque le MMA de la boxe, c'est que comme l'arsenal est beaucoup plus, on va dire, les compétences des combattants, sont beaucoup plus amples, il y a beaucoup plus de choses à faire, hein, en lutte et en striking, bah, on peut se retrouver effectivement avec des oppositions de style où bah, l'un des deux combattants est dans l'impossibilité de s'exprimer comme il le voudrait. Et c'est ce qu'on a eu, donc là, entre Taylor Lapillus et Bacharat.
Moi, j'étais quand même un petit peu déçu de Taylor Lapillus, notamment sur sa capacité à contrer non pas par sa boxe, mais plutôt par son intelligence de combat. Parce qu'on sait que Taylor Lapillus, c'est un cerveau. Pour le coup, ça, on ne peut pas lui
Ah non,
retirer.
non, il a un très très bon, ce qu'on appelle le fight IQ, c'est-à-dire globalement l'intelligence de combat,
C'est
quoi.
ça, voilà. Et malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'a pas vraiment su gérer la distance, que ce soit défensivement. Il s'est fait amener au sol très régulièrement. Voilà, il n'a pas réussi à défendre les takedowns. Offensivement, il n'a pas été dangereux. Donc moi, j'en attendais un peu plus de lui sur cet aspect-là. Je savais qu'en termes de talent pur, de technique, de spontanéité, de vitesse, je voyais Fareed Bacharach un petit peu au-dessus, mais je le voyais un petit peu Taylor Lapillus essayer d'un petit peu contrecarrer les plans de son adversaire du soir. Ça n'a pas du tout été le cas.
Non, 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 alors ça n'a pas été le cas. Je pense que beaucoup, je voyais des réactions sur Internet. C'est vrai qu'on pourrait reprocher, même si reprocher, ce serait complètement idiot. Nous ne sommes pas dans la cage avec lui, hein, et nous ne faisons pas ce qu'il fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait dans l'absolu, lui reprocher peut-être un manque de férocité, une manière un peu trop passive qu'il a eu d'approcher le combat, à l'inverse de Bacharat, qui lui, et ça s'est senti, même s'il cherchait pas nécessairement une finition, il voulait vraiment contrôler le combat de A à Z, et c'est ce qu'il a fait. Et bon, moi j'avais déjà, on va dire, un ressenti un peu mitigé vis-à-vis de Taylor Lapillus, sans lui enlever ses capacités, mais déjà à l'UFC Paris, où je trouvais que ses victoires étaient un petit peu trop timorées, malgré la réputation qu'il a dans le MMA français. Donc là, bon, bah je forcé de constater que oui, Fareed Bacharat a été bien plus actif, bien plus désireux d'obtenir la victoire, en tout cas.
Alors c'est un petit peu ce qu'on disait, tu disais sur ce manque d'agressivité, c'est ce qu'on, en fait, quand on regardait le combat, on en a discuté un petit peu ensemble par message et tout, on se disait en fait, il y a des combattants, Taylor Lapillus en fait partie, il faut qu'ils apprennent à être débiles. C'est-à-dire que
Non, mais c'est vrai.
dans le troisième round, Taylor Lapillus perd les deux premiers, il lui reste un round pour faire la différence. On n'a pas l'impression qu'il a les ressources en lui pour aller, bon bah foutu pour foutu,
Oui.
tu vois, je donne tout, quitte à me faire finir, c'est pas grave, dans tous les cas, je vais perdre. Donc, autant essayer d'y aller là à fond. Là, on ne l'a jamais vraiment senti en capacité d'aller chercher une finition, d'aller vraiment mettre en difficulté son adversaire.
C'est plus simple, effectivement, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais comment dire, je reprendrai un exemple, alors là, évidemment, de toute autre catégorie de poids, évidemment, tout autre combattant, mais c'est justement ce que tu viens de dire à l'instant, c'est typiquement le raisonnement que s'est fait Alex Pereira lors de son premier combat contre Adesanya. Il a très vite pris conscience, justement, qu'il avait perdu la plupart des rounds, et dans le cinquième round, il s'est dit, bon, j'ai pas le choix, il faut que je trouve impérativement un KO pour gagner, pour devenir champion des poids moyens et battre Israel Adesanya. Donc il y est allé, on va dire, sans aucun tact, sans aucune garde. Il s'est rué sur Adesanya, il l'a couvert de coups, et miraculeusement, alors qu'il aurait pu se faire mettre KO, hein, ce qui est arrivé lors de la revanche, mais il a réussi à infliger un KO technique à Israel Adesanya, bah parce que, comme tu l'as dit, faute d'un meilleur terme, il a décidé d'être débile juste pendant 3 minutes. Et évidemment, c'est une affaire de dosage, hein. Il faut savoir
Ah bah c'est ça.
à quel moment être un peu idiot pour tout, justement, pour déclencher un peu la furie.
Voilà, donc je pense malgré tout, c'est pas un combat qui va remettre énormément en cause les capacités de Taylor Lapillus, hein. Ça reste un combattant très voilà, avec toutes les qualités qu'on lui a dit, donc une boxe très académique, un très bon fight IQ. Là malheureusement je pense face à Fareed Bacharach qui reste invaincu, la marche était peut-être un peu trop haute.
Oui, peut-être. Bah, j'ose espérer que ça le motivera encore plus, justement, peut-être à développer un côté un tout petit peu moins orthodoxe et plus,
Un peu
justement,
plus animal.
plus animal, mais plus, entre guillemets, faute d'un meilleur terme, mais côté un peu freestyle fighting, c'est-à-dire quelque chose de plus chaotique, de plus étrange dans les combinaisons et un petit peu plus agressif, un style de combat, bah, typiquement un peu. Où on pourrait penser à des combattants comme Anthony Pettis, par exemple, c'est-à-dire qui ont une boxe, un savoir-faire en striking prédominant, mais qui arrivent comme ça à mêler des techniques
Bah,
assez étranges et unorthodoxes.
Le truc, c'est que quand tu as un adversaire face à toi qui maîtrise son sujet, il faut savoir faire preuve d'un petit peu
C'est
d'imprévisibilité.
ça, casser les règles en fait.
C'est ça, parce que faut y aller au culot au bout d'un moment.
Tout à fait.
Donc là, malheureusement, il a pas su le faire. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur notre combattant français, Taylor Lapillus, qu'on retrouvera probablement aux commentaires des prochains UFC, hein. Il aime bien faire ça aussi. Il aime bien un petit peu être aux commentaires sur RMC Sport. On va parler un petit peu du main event de cette
Ah,
soirée.
le
Donc
plat de résistance,
c'est ça, donc combat chez les poids mi-lourds, chez
oui,
les lourds légers,
lourd
pardon.
léger plutôt,
Voilà. Magomed Ankalaev qui vient décrocher une 19e victoire face à Johnny Walker. On s'attendait à une opposition de style, et au final, on a vu un Magomed Ankalaev qui est rentré dans le jeu du striking de Johnny Walker.
Tout à fait. Bah, là, pour le coup, Magomed Ankalaev m'a un peu, a un peu rabattu mon caquet dans la mesure où moi, je m'attendais justement à une victoire sans grand éclat, on va dire, simplement avec bon, le style qu'on connaît aux combattants caucasiens et daguestanais, à savoir énormément de lutte, de contrôle, mais jamais, on va dire, quelque chose de très explosif ou de justement une volonté d'aller chercher comme ça le chaos. Et surtout face à un combattant contre Johnny Walker, voilà, qui est connu pour son explosivité, pour son côté très féroce où il va envoyer des coups.
On parlait d'imprévisibilité juste avant. Ah bah Johnny Walker, il a inventé le mot.
Ah oui, non, mais clairement, c'est la quintessence de ce style-là. Il est très difficile à prévoir. Ses coups sont vraiment, vraiment étranges. Et Magomed Ankalaev qui a réussi comme ça, mais sur un contre absolument parfait. C'est quasiment un contre pédagogique, en fait. Le genre de contre qu'on montre, qu'on
dévoile. À montrer dans toutes les écoles de MMA.
C'est vraiment le Johnny Walker envoie un jab. Magomed Ankalaev, on va dire, redirige le coup et lui assène immédiatement un crochet qui juste connecte et envoie Johnny Walker au tapis. Donc vraiment très très propre. On remarquera aussi que pendant tout le combat, Magomed Ankalaev a mis une pression constante sur Johnny Walker. Il l'a empêché justement de se développer ou en tout cas d'accéder à ce côté très imprévisible qui le caractérise. Et il a obtenu une super belle victoire, j'ai rien d'autre à dire.
Voilà, tout à fait. En plus, on peut, dans l'imaginaire un petit peu des suiveurs de MMA, Johnny Walker, c'est peut-être le combattant pas forcément très très réfléchi. Là, pour le coup, il est venu quand même avec un plan de combat, un fight plan. C'était notamment d'énormément miser sur les low kicks.
Oui.
Parce qu'on a vu, dans son combat contre Jan Blachowicz, Magomed Ankalaev avait un petit peu de mal à encaisser les low kicks. Walker est venu à énormément bombarder les jambes de Magomed Ankalaev. En espérant un petit peu briser sa mobilité, voilà, le ralentir, ça n'a pas fonctionné. Ankalaev qui a très bien su contrer, qui a très bien su parer à ce plan-là, et qui du coup, c'est ce que tu disais, il a réussi à constamment mettre la pression, avancer sur son adversaire, et qui du coup a réussi à maîtriser facilement.
Tout à fait. Et puis là, c'était même pas un chaos technique, un chaos vraiment net où Johnny Walker était inconscient au moment de recevoir le coup. Donc vraiment, il s'est très très bien débrouillé. Et Magomed Ankalaev qui a toujours été un petit peu le cheval noir de la catégorie lourd léger parce qu'il a il aurait dû être champion, mais en fait son combat contre Jan Blachowicz a terminé sur une égalité. Et puis après, justement, il y a eu le premier combat contre Johnny Walker où il y a eu une disqualification. En tout cas, c'est vraiment assez, assez étrange. Il n'a jamais vraiment eu ses chances, en tout cas, à la fois auprès des fans et puis simplement du classement de sa catégorie. Il n'a jamais vraiment obtenu gain de cause. Et là, donc, on le voit s'imposer. Non, j'ai quand même 19 victoires. Je viens de mettre KO Johnny Walker, qui est réputé pour son imprévisibilité. Et il a fait part de son souhait de vouloir affronter Alex Pereira. Et je suis curieux de voir le combat, même si... Et je terminerai là-dessus. Magomed Ankalaev, peut-être pour avoir un petit peu, on va dire, faire parler de lui, a déclaré qu'il souhaitait, alors qu'il a un gros background en lutte, mais il a déclaré vouloir affronter Alex Pereira uniquement debout. Alex Pereira qui est deux fois champion de kickboxing, enfin bref, qui est un des meilleurs combattants pied-point de la planète. Je ne sais pas si tu as envie de tenir 5 rounds debout contre Alex Pereira Magomed, mais je te souhaite bonne chance.
Bah en fait, si on peut faire une mini preview de ce qui pourrait se passer, c'est toujours le même danger quand on affronte Alex Pereira, c'est que t'as beau dominer sur 4-5 rounds en striking, un moment tu vas te prendre un crochet du gauche, c'est interrupteur, on éteint les lumières, terminé, bonsoir.
Alors pour terminer sur Pereira qui n'est pas le sujet, mais je veux dire, ce qui est très drôle avec Pereira, c'est que, je vais pas dire qu'il a qu'une seule arme dans son arsenal, il en a plusieurs, mais c'est systématiquement le même coup qui éteint tous ses adversaires. Même crochet du gauche à chaque fois, c'est avec
sur
celui-là
ses derniers KO,
tout le temps.
C'est trois derniers KO, donc c'est Sean Strickland, Adesanya et Jiří Prochka, les trois,
crochet
du gauche.
À chaque fois, c'est un crochet du gauche.
Et ça...
alors que c'est même pas... Lui, quand on lui pose la question dans les entrevues, il déclare toujours que son coup préféré, c'est le genou sauté. Mais en fait, non. Son coup signature, c'est vraiment ce crochet du gauche.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Ankalaev Volker. Voilà, qui est un combat qui, on n'en attendait pas grand-chose,
Oui.
mais on était agréablement surpris
Tout
malgré
à
tout.
fait. Ouais, vraiment très très belle victoire de la part de Magomed Ankalaev. Je suivrai avec un grand intérêt son prochain combat.
On parlait d'imprévisibilité.
Ah.
Sean Strickland contre Dricus du Plessis en main event de l'UFC 297 de ce week-end. Qu'est-ce qu'on en attend de ce combat?
Alors,
Voilà, ça aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, pour ceux qui ne savent pas. Main event de l'UFC
Ouais,
297.
qui déterminera donc le nouveau champion de la catégorie
Des poids
des
moyens.
poids moyens. Alors, je vais être très clair, je pense que depuis que l'émission a été lancée, je crois que c'est le combat le plus dur à pronostiquer qu'on ait eu. Sean Strickland n'est pas on va dire, un artisan du chaos, c'est pas quelqu'un justement qui a ce enfin, de la dynamite dans les poings, mais à côté de ça, il a une très très bonne défense, il est vraiment capable justement il a un très bon cardio, il est capable de durer sur beaucoup de rounds, d'être très consistant, et bah, il contre simplement très bien. Il est pas particulièrement explosif, mais par contre, il contre très bien et il sait maîtriser son adversaire. Il a une garde assez particulière, une manière justement de tenir. Oui, d'avoir, il a une garde assez atypique. Et à côté de ça, bah, Dricus du Plessis, c'est un combattant qui a quand même 19 finitions sur ses 20
20 victoires,
victoires,
c'est ça.
ce qui est quand même assez flippant. Et alors, Dricus du Plessis n'a aucun cardio, mais par contre. Dans tous ces combats, il y a qu'un, au bout d'un moment, en fait, pendant un round, il va avoir une accélération qui va vraiment durer 15 secondes, mais pendant ces 15 secondes, il va terminer son adversaire. J'ai pas de meilleure manière de le décrire, c'est vraiment, il n'a pas de cardio, il n'a pas d'endurance, il n'est pas capable de durer très très longtemps. Donc là, un combat de 5 rounds, moi je demande à voir pour Dricus du Plessis. Mais par contre, il a cette espèce de moment de grâce dans tous ses combats où pendant mais ouais 20 secondes, il va complètement submerger son adversaire de coups et il va le mettre en chaos technique, le soumettre ou trouver quelque chose.
Et à la différence de Sean Strickland, donc pour Dricus du Plessis, c'est que lui, c'est un buffle, c'est-à-dire qu'il a une
Ah
énorme
vraiment?
puissance de frappe.
Ouais.
Même physiquement, il est assez impressionnant, il est assez stock. Et pour moi, l'enjeu de ce combat, ça va être comment est-ce que Sean Strickland va réussir à maîtriser les temps forts de Dricus du Plessis. C'est-à-dire que je vois un Sean Strickland à son habitude, toujours avancer vers son adversaire. Voilà, un volume de coups, son style atypique et tout, qui vient un petit peu déstabiliser son adversaire. Et par contre, là où il va falloir faire attention, comme tu l'as dit, les phases d'accélération, à
Ouais.
voir comment il se débrouille sur ce moment-là, à ce moment-là, parce que jusqu'à présent, il n'a pas vraiment eu à affronter, Sean Strickland, je parle, d'adversaire un petit peu dans ce style. C'est-à-dire
Jamais, mais non.
qu'Adesanya, c'est plutôt un gros contreur, il n'a pas vraiment
Voilà.
de. Mais pas plutôt être sur la maîtrise constante d'un combat, il va pas
C'est
avoir de grosses
ça.
accélérations.
Adesanya, on va dire, c'est un striker défensif, pour ainsi dire. C'est
Ouais.
un peu comme un sniper planqué derrière son buisson qui a enfin, je veux dire, qui a qu'une seule cartouche dans son fusil, mais qui fait mouche à chaque fois. Dricus du Plessis, c'est un peu le fusil à pompe avec seulement deux cartouches. C'est-à-dire qu'il y a que deux cartouches dans le truc et vous allez prendre 10 plombs à recharger, mais quand il touche, vous êtes mort.
Voilà, c'est ça. Mais ouais non, combat. Honnêtement, c'est difficile de beaucoup développer là-dessus parce que
C'est
honnêtement,
vraiment, je suis incapable de pronostiquer le combat. Je crois même,
alors,
j'en ai pas.
tu es incapable de pronostiquer le combat. Il va quand même falloir le faire,
Bah, je. Non, mais alors.
comme ça au feeling.
Bon, je pense, allez, vas-y, au feeling. Je pense que Dricus va probablement essayer d'emmener Sean Strickland au sol, même si physiquement, Strickland a quand même une bonne défense de. Il est bon, quoi. Il a une bonne défense de mise au sol. Donc, ouais, vas-y, je sais pas, je dirais peut-être Dricus du Plessis par soumission au troisième round, mais. Je peux très bien voir, j'en sais rien, hein, peut-être Sean Strickland qui arrive à connecter et des chaos techniques sur Dricus du Plessis. Non, mais c'est possible, hein.
Ah,
Donc je sais
ouais.
pas, je dirais Dricus par soumission, peut-être.
Moi, chaos technique, j'irai pas jusque-là. Par contre, en revanche, je trouve que ces derniers combats, on a toujours eu tendance à sous-estimer Sean Strickland. Et à chaque fois, il a
Ouais,
réussi à trouver la
non, c'est
solution.
vrai.
À chaque fois, son style atypique fait complètement déjouer son adversaire. Le combat face à Adesanya, c'en est
Ah
la
non, mais
preuve.
ça,
Voilà, c'est criant,
c'est
quoi.
scolaire, hein,
C'est ça,
oui.
c'est. Voilà. Du coup, moi, je. Sur le papier, j'ai quand même l'impression que Duplessis peut faire plus de mal à Strickland, mais au vu de la dynamique actuelle, je vais quand même partir sur un Strickland à la
Non,
décision
mais
dans la
c'est
lignée de
tout à
ses
fait
derniers
logique.
combats.
Je pense que oui, c'est ça, le choix le plus logique, entre guillemets, ce serait Sean Strickland par décision, et effectivement, probablement, c'est vers quoi ça va se diriger. Mais on en MMA, tout peut arriver.
C'est vrai que Un truc qu'on n'a pas dit, Dricus du Plessis ressort quand même d'une victoire face à Robert
Non, mais
Whittaker.
ça, enfin, voilà, pour moi en tout cas, qui était la plus grosse surprise de 2023, c'est Dricus du Plessis qui termine Robert Whittaker. Moi, c'était du délire, hein, j'y ai pas cru sur le coup.
Voilà. Voilà, juste pour finir, Hugo aussi nous avait donné son pronostic du combat. Lui, il voyait plutôt une finition de Dricus du Plessis.
Voilà.
Donc, on fera les comptes la semaine prochaine,
Ouais.
lors du débrief. Voilà un petit peu pour les actus. On va lancer la première musique. Donc la première musique, c'est Toys in the Attic de Aerosmith. On revient tout de suite pour la chronique mythique. On est de retour en direct sur Prune 92 FM. On a parlé un petit peu des combats qui ont lieu cette semaine et ceux à venir. Et maintenant, on va se faire une petite pause dans les dialogues, car Lounit nous a préparé une belle chronique mythique.
Absolument.
Donc, jingle, et c'est parti.
La chronique mythique dans le Bagarre Club.
Jusqu'à présent, dans les chroniques mythiques, on vous a surtout parlé des combats qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu leur importance dans la grande histoire des arts martiaux mixtes. Par exemple, le premier combat de Conor McGregor à l'UFC, dont il deviendra rapidement la principale superstar. Mais aussi la fois où Georges St-Pierre est devenu le nouveau champion des poids moyens après 4 ans d'absence, ou bien encore celle où Max Holloway a explosé le record du nombre de frappes significatives en un seul combat. Néanmoins, on n'a pas souvent parlé de combats qui nous ont particulièrement marqués car nous y avons assisté en direct, et qui ont ainsi laissé une trace indélébile dans notre esprit de fan. Pourtant, c'est bien pour ça que nous nous levons fréquemment à 4h du matin pour regarder De Gus en short s'envoyer des mandales à 600 km de la France. Pour les frissons, pour le souvenir, pour le sport avec un grand S. Et dans mon panthéon personnel des combats les plus fous que j'ai pu voir en direct, il y en a un qui tient une place assez particulière, parce que je n'aime pas l'un des deux combattants auxquels je m'apprête pourtant à faire l'éloge. Cependant, il m'est impossible de nier que c'est sans conteste l'un de mes duels préférés. Je parle bien sûr de Ramzat Chimaev contre Gilbert Burns, une guerre en trois rounds qui s'est déroulée le 9 avril 2022 à Jacksonville en Floride, lors de l'UFC 273. L'événement lui-même était d'ailleurs suffisamment chargé. Les champions Alexander Volkanovski et Aljamain Sterling défendaient ce soir leur titre face aux Coréens Zombie et à Petrian. Mais pour les fans, le vrai combat de la soirée était ailleurs. Gilbert Burns, le numéro 2 de la catégorie welterweight, affronte ce soir-là le numéro 10. Un match incohérent et lunaire, à première vue. Pourquoi Burns, dont le dernier combat l'opposait au champion Kamaru Usman, irait-il affronter un adversaire classé 8 places derrière lui ? Parce que l'adversaire en question est alors sur une série de 10 victoires consécutives, toutes par finition au premier et au second round. Le dit adversaire a également la langue bien pendue, multiplie les provocations envers ses concurrents et se démarque comme LA nouvelle sensation de l'UFC. Son nom ? Ramzat Chimaev. Né en Tchétchénie en 1994, Chimaev a grandi à la dure, subissant les traumatismes liés à la chute du bloc soviétique. Il s'est forgé un caractère féroce et impitoyable, lui valant immédiatement le surnom de Borz, le loup, dans la langue tchétchène. Comme beaucoup de combattants originaires du Caucase, la lutte est l'arme favorite de Ramzat Chimaev pour venir à bout de ses adversaires. Il enregistre 4 soumissions à son palmarès et prend systématiquement l'habitude de traîner son adversaire au sol dès les premières minutes du combat. Toutefois, à l'inverse de ses compères, Chimaev se démarque aussi par son impressionnant pouvoir de KO. Il a d'ailleurs remporté une victoire par KO en seulement 17 secondes, assommant son adversaire dès la première droite. Ramzat Chimaev semble alors invincible, mais ce serait très mal connaître l'adversaire qu'il affronte ce soir-là. Le Brésilien Gilbert Burns, c'est pas le gatekeeper de la catégorie mi-moyen. C'est pas le vigile à l'entrée de la boîte qui t'empêche de rentrer. Gilbert Burns, avec sa tête de baron de la drogue, c'est le type déjà assis dans le carré VIP qui est prêt à t'atomiser si jamais tu lui parles mal. Évidemment, Ramzat Chimaev n'a pas l'intention d'être poli et Gilbert Burns ne va pas laisser ce nouveau venu lui piquer sa place durement acquise dans la catégorie welterweight. Burns a beaucoup plus de ressources et de répondants que les précédents adversaires de Chimaev, en particulier au sol. Il détient notamment une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et possède d'autre part une boxe solide, que je trouve d'ailleurs bien trop sous-estimée. Burns entend bien montrer à Chimaev qu'il y a des échelons à ne pas gravir trop vite dans ce sport, au risque de déguster une défaite bien épicée, sauce brésilienne comprise. Ramzat Chimaev, fidèle à ses habitudes, ouvre le premier round par une tentative immédiate de mise au sol. Une chose que j'ai oublié de mentionner vis-à-vis de Chimaev, c'est qu'il est grand. Genre vraiment grand. Il n'a pas le physique d'un poids mi-moyen et cet écart de corpulence entre lui et Gilbert Burns se fait immédiatement ressentir. Il travaille le Brésilien au corps, le bloquant contre la cage et le manœuvrant lors de phases intenses de clinch. Burns ne se laisse pas malmener, il résiste à la pression du Tchétchène et lui répond coup pour coup chaque fois qu'il en a l'opportunité. Après un passage au sol mouvementé, devant lequel Gilbert Burns réussit à se libérer de Chimaev, les deux combattants poursuivent leurs échanges debout. Chimaev progresse d'une manière très agressive vers Burns, changeant de garde avec une grande habileté, cherchant à sonner le Brésilien. Ce dernier est pourtant loin d'être passif et entend contrer Chimaev à la moindre occasion, grâce à ses cochers ou ses overhands. Sa droite fait mouche à plusieurs reprises. Il ne craint pas ce soi-disant grand méchant loup qui a l'air de terroriser le monde du MMA. Il devrait pourtant. Un jab de Chimaev vient le cueillir au parfait moment et il chute. Ramzat Chimaev se rue alors sur Gilbert Burns qui survient une tempête de coups en mobilisant ses compétences en jiu-jitsu brésilien. Le Tchétchène ne parviendra probablement pas à soumettre le Brésilien, alors il essaye de le mettre KO. Ce premier round déjà très explosif n'était pourtant qu'une mise en bouche, un apéritif nécessaire pour mieux préparer la boucherie que sera le second round. Cette fois-ci, c'est Burns qui ouvre les hostilités en essayant d'emmener Chimaev au sol. S'il n'y parvient pas, force est de constater qu'il a de l'audace. Chimaev continue quant à lui à charger fréquemment de garde, rendant son jeu de jambes imprévisible et ses combinaisons difficiles à anticiper. Cette stratégie lui réussit, car même si Burns parvient à le contrer plusieurs fois, ses assauts font mouche. Les échanges deviennent de plus en plus violents. Un crochet de Gilbert Burns sonne Chimaev, et le Brésilien s'empresse de foudroyer le Tchétchène qui essaye du mieux qu'il peut de le tenir à distance. Chimaev, qui menait les échanges durant tout le premier round, est ici contraint de ralentir. il mesure enfin le danger que représente Gilbert Burns. Alors qu'une nouvelle phase de lutte s'enclenche, Burns repousse Chimaev d'un immense coup de pied à la poitrine qui laisse le Tchétchène stupéfait. Burns lui sourit après coup, l'air de dire « Tu t'y attendais pas à celle-là, hein ?» Dans les 10 dernières secondes de ce second round, les deux combattants manquent mutuellement de se mettre KO et continuent de s'envoyer des coups après que la cloche ait sonné, forçant l'arbitre à s'interposer. Difficile de dire qui a l'avantage jusqu'à présent. Les deux athlètes se sont rendus chaque coup avec une rare violence, et si le premier round peut être attribué sans trop de soucis à Chimaev, le deuxième est beaucoup plus disputé. Le nombre de frappes significatives va en faveur de Burns, mais Chimaev a toutefois mené la plupart des échanges. Lorsque le troisième round commence, Ramzat Chimaev tire profit de ses jabs pour maintenir Burns loin de lui, tandis que ce second essaye au contraire de casser la distance pour venir à bout du Tchétchène. Les échanges s'intensifient jusqu'à aboutir à une nouvelle phase de clinch brutale. Chimaev et Burns sont épuisés après un second round au sommet. Leurs visages amochés et leurs approches plus lentes, mesurées et prudentes parlent d'elles-mêmes. Ils n'en démordent pas pour autant. Les directs de Burns forcent Chimaev à reculer, tandis que les combinaisons du Tchétchène blessent toujours plus le Brésilien, laissant de nombreuses marques sanglantes sur son visage. Le troisième et dernier round se clôt par un ultime échange donnant l'avantage à Ramzat Chimaev. Malgré la dureté de son adversaire, il s'est nettement démarqué dans ses 5 dernières minutes. Le Tchétchène remporte donc sa 11e victoire par décision unanime, ce qui est une première dans sa carrière. Si Gilbert Burns s'est peut-être montré un peu trop passif durant le premier et le troisième round, il a néanmoins rappelé à tout le monde et à Ramzat Chimaev le premier que certaines marches ne doivent pas être passées trop tôt. Il a quasiment envoyé le Tchétchène au tapis lors du second round et il a même réussi à nullifier sa lutte lors des quelques phases au sol, ce qui est un exploit total. Personne n'est invincible, encore moins en MMA, et Gilbert Burns a prouvé au monde entier qu'il était à un cheveu près d'abattre le grand méchant loup de l'UFC. Pourquoi avoir choisi de vous parler de ce combat, alors même que je déteste la personnalité de Ramzat Chimaev et que Gilbert Burns ne figure même pas parmi mes combattants de MMA préférés? Parce que parfois, les étoiles s'alignent. Les styles se marient à merveille et vous offrent un affrontement dont vous vous souviendrez pour les années à venir. En l'occurrence, je me rappelle parfaitement avoir bondi de mon siège à au moins 3 reprises lors du deuxième round de ce combat. Je me souviens de la réaction de moi et de mon ami lorsque nous avions vu Ramzat Chimaev se manger une gauche de l'espace dans les 10 dernières secondes. C'était complètement dingue et honnêtement, ça reste encore l'un de mes meilleurs souvenirs. C'était la chronique mythique de Ramzat Chimaev contre Gilbert Burns. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée.
Merci Lounis pour cette chronique, franchement j'ai adoré, une de tes meilleures,
hein, voilà. Ah, merci.
Il y en a eu que deux mais c'est déjà la meilleure. Non mais ouais, c'est vrai que c'est un combat que j'ai pas eu vraiment la chance de voir en direct personnellement.
C'était hallucinant.
Mais ouais, c'était vraiment exceptionnel. J'avais une question, j'ai oublié. Déjà, bonne soirée, pas encore. Hein,
pas encore, on a encore.
Tu vas rester là avec moi.
Mais d'ordinaire, justement, la chronique mythique bouclait les émissions, donc c'est pour ça que j'ai oublié de la...
Il n'y a pas de souci. Non, on a encore un petit débat à faire. Mais ouais, est-ce que c'est un des combats qui, en direct, t'as le plus scotché?
Je pense, ouais. C'est pour ça que je faisais le distinguo. Il y a des combats que j'ai revus après coup en rediffusion, ce qui sont importants dans l'histoire de l'UFC ou des sports de combat. Mais dans les combats que j'ai véritablement vus, en tout cas au moment où ils se produisaient, moi, j'étais pas dans la salle, mais je veux dire, je les ai vus sur mon écran. Ouais, de très loin. C'était un des trucs les plus explosifs, imprévisibles, et surtout, il y avait... même moi, j'avais du mal à ce moment-là à réaliser que Ramzat Chimaev était invincible, enfin qu'on pouvait le battre. Donc voir Gilbert Burns vraiment le mettre à ce moment-là en difficulté, alors même qu'il est au-dessus de lui dans les classements, c'était, enfin, ouais, l'opposition de style et puis même de mental était,
ouais, absolument, de personnalité.
Ouais, vraiment, c'était un combat de dingue. C'est un des meilleurs que j'ai vu, clairement.
Et ben voilà un petit peu pour la chronique. Donc entre Gilbert Burns et Ramzat Chimaev. Donc n'hésitez pas à aller voir les combats dont on vous parle, hein, en général.
Ah, celui-là, ouais. Et pour le coup, vous allez vraiment pas vous ennuyer.
En général,
il y a pas de temps mort dans celui-là.
En général, si on en parle, c'est que il y a une raison. On va se faire une dernière petite pause musicale. On va s'écouter Grand de Jewel Hussein et on revient pour le débat.
Yeah. C'est sur moi que tout repose, je le sais. Pris le soir quand le ciel tire sur le mauve. Faut sortir la tête de là. L'impression que je suis rêvé depuis le siècle. Oh. L'impression que je suis rêvé depuis le siècle. Oh.
9h pétante. Le sort de ma famille en dépend. Je me remets en scène. Hey. Ta raison pépon, t'ira plus vite que nos bas, oui, on le sait. Hey.
Yeah. Je sais plus si je le fais pour moi ou si je le fais pour les autres. Pourvu que les autres prient pour moi. Je sais plus si je le fais afin de réparer mes fautes. Ou simplement parce que j'aimerais plus de pouvoir.
C'est sur moi de reposer, je le sais. Pris le soir quand le ciel tire sur le mauve. Pour sortir la tête de l'or. Baby, je me sens réel depuis des siècles. Ah, l'impression que je suis rêvé depuis les siècles. Ah, rêvé pour ce shit.
Tu connais ma façon de briller de temps en temps. Je booste mes rêves à ma façon de rimer. Le frangin est transcendant. Dès qu'on a dit bye à toutes les majors qui nous observent. Tous les serpents dans les hautes herbes. J'en ai douté mais je prospère. De toute façon je me sentais trop high pour les autres cercles. Et j'ai un truc à moi frère. Comme un grand feu de forêt. J'suis venu dans le game comme un étranger. J'vais repartir à bord d'une foreign. Est-ce que j'ai tout ce que je voudrais? Non. C'est une question de temps. Et j'ai pigé ce qu'il me fallait pour devenir grand. Mais j'ai pigé. Mais c'est maintenant qu'il faut être grand.
C'est sur moi que t'as reposé, je sais. J'ai pris le soir quand le ciel tire sur le monde.
On est de retour en direct sur Prune, il est 19h37, vous êtes toujours en train d'écouter le Bagarre Club. On a eu le débrief des actualités, des combats et les previews voilà, qui ont eu lieu dans la semaine et qui arrivent. On a eu la super chronique mythique de Lounis sur Gilbert Burns contre Hamza Chimaev. Et là on va terminer en douceur tranquillement par un petit débat. La question du jour c'est, la France peut-elle faire partie des grandes nations du MMA à venir ? Jingle.
I'm not impressed by your performance.
Le débat du jour dans le Bagarre Club.
J'avais oublié notre générique de débat avec la phrase de Georges Saint-Pierre et l'accent québécois.
Ah, il est incroyable.
Franchement, on l'adore Georges Saint-Pierre. Hein. On lui fait la bise s'il nous écoute, évidemment.
On espère qu'il nous écoute.
Lounis, comme j'ai dit, est-ce que selon toi, à l'avenir, la France peut-elle faire partie des grandes nations du MMA à l'avenir, dans le même, au même titre que peuvent l'être les États-Unis, la Russie ou le Brésil?
Alors, il faut déterminer ce qu'est une grande nation de MMA. Est-ce qu'on parle simplement de... Est-ce que l'UFC s'est bien implanté dans le pays? D'ailleurs, est-ce qu'il y a, comme en Angleterre, est-ce qu'on a différents événements qui ont lieu dans différentes villes du pays?
Pas seulement l'UFC.
Pas seulement l'UFC, hein, mais également le PFL, le ONE, le Bellator. Est-ce que, par exemple, on a une dynastie ou en tout cas un long héritage de combattants, en France, ce qui est en train, on va dire, on en discutera après, mais ce qui peut être le cas. Mais par exemple, pour ce qui est de l'Angleterre, bah c'est pas vraiment le cas. Certes, on a Michael Bisping qui a un peu été le premier et le plus populaire. Là, on a Paddy Pimblett, Darren Till à un certain moment.
Léon Edwards,
non, mais tout à fait. Aspinall, ça commence, mais je veux dire, on n'a pas une, on n'est pas, tu évoquais les Brésiliens et les Russes. Eux, pour le coup, ils ont une vraie dynastie respective de champions et de personnes là-dedans. Les Américains encore plus, enfin autant sinon plus. Mais donc, justement, ce terme de grande nation du MMA, ça enveloppe énormément de choses. Il y a également, effectivement, les facteurs législatifs, en tout cas. Par exemple, on sait que, par exemple, les États-Unis, ça a souvent été le problème dans certains États qui n'avaient pas légalisé justement le MMA. On n'a pas ce problème en France, mais je veux dire, il y a énormément de facteurs qui rentrent là-dedans. Maintenant, pour répondre de manière un petit peu plus synthétique à ta question, je pense que ça dépendra justement. En 2024, je pense, va être une année charnière pour évaluer l'importance, on va dire, à quel point le MMA est en train de croître en France. Et je pense que peut-être à terme, oui, vu comment le sport commence à être populaire, à quel point beaucoup de personnes commencent à s'inscrire dans des clubs de MMA, à voir la popularité qu'a notamment, alors Cyril Gane l'a toujours, hein, il l'a conservé, mais là je vois en ce moment la popularité qu'est en train d'avoir Benoît Saint-Denis, Manon Fiorot qui se rapproche doucement mais sûrement d'un combat pour un titre, donc qui a des chances de devenir la première championne française de MMA. Non, ça m'a l'air plutôt bien engagé.
Ouais, alors c'est vrai que du coup, si on se pose cette question, c'est parce que le MMA il est légalisé en France, la compétition du moins uniquement depuis 2020. On est début 2024 et on a déjà l'impression que le sport s'implante, soit il s'est déjà bien implanté, soit il est en train de s'implanter encore plus en tant que le sport de combat référence dans l'Hexagone.
Oui.
Voilà, à l'heure actuelle, on n'a pas les chiffres encore, mais si on compare le nombre d'inscrits dans un club de MMA au nombre d'inscrits dans d'autres clubs de sport de combat, je pense notamment à la boxe française, la boxe anglaise, le kickboxing, le judo, même si le judo, moi j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, c'est quand même autre chose. Non, c'est vrai que on a vraiment une émulation qui se fait à niveau national et international autour du MMA français. Mmh. Comme tu l'as dit, donc là actuellement, un des arguments principaux, c'est que on a des combattants français qui, à très haut niveau, je parle de l'UFC, je parle du PFL, du KSW, on peut penser à Saladin Parnasse et tout.
Fait, ouais.
On a des Français en fait qui sont en train de performer, tout simplement. Voilà, donc ils sont arrivés pour certains il n'y a pas longtemps.
Et qui sont de plus en plus médiatisés, surtout.
Notamment en France. Mmh. On pense évidemment à Cyril Gane, qui est vraiment la tête d'affiche. Oui. Du sport, hein, qu'on le veuille ou non, même si, comme tu l'as dit, Benoît Saint-Denis prend
même,
l'ampleur.
Hors UFC, Cédric Doumbé, hein, clairement.
Cédric Doumbé, évidemment, qui a vraiment ce côté, pardonnez-moi du terme, mais ce côté grande gueule, très à l'américaine.
Très showman, vraiment.
Très showman,
il sait vendre
voilà.
ses combats et il fait beaucoup parler de lui. Donc, oui.
Voilà, donc, non, c'est vrai. En plus, on peut rajouter à ça, on en avait parlé dans une émission, mais des performances en amateur qui confirme que en dessous des grandes stars, il y a tout un circuit, tout un circuit amateur français.
Bah on a l'ARES, hein, l'ARES Fighting Championship, qui est donc la principale ligue professionnelle de MMA.
C'est ça, on a notre
France.
Propre, ouais. La plus grande ligue en France, notre propre ligue à nous, c'est un petit peu notre ligue 1 du MMA.
C'est un peu ça,
voilà. Ouais. Et en plus de ça, on peut parler de un petit peu toutes les organisations nationales qui pullulent en ce moment. Je pense évidemment au Kong, à l'Hexagone.
Oui.
Voilà, donc ça montre en fait tout ça, ça témoigne d'un sport qui est en plein essor, que ce soit en termes du nombre de licenciés, que ce soit en termes de reconnaissance, de popularité. On a eu nos premiers événements UFC à Paris.
Oui, qui ont été salués pour déjà l'engouement du public, hein, faut le savoir,
ça,
à travers le monde.
Beaucoup de commentateurs, par exemple les commentateurs habituels de l'UFC, donc Michael Bisping, Daniel Cornet, Joe Rogan, tout ça, ont dit que c'était...
Ouais.
C'était peut-être que c'était peut-être la meilleure ambiance du monde en France à Paris.
Nous on s'en rend difficilement compte parce que soit on est dans la salle, soit on le regarde comment dire en direct. On n'a pas vraiment d'éléments de comparaison, mais non, entendre justement des chroniqueurs étrangers dire que justement on a été là, enfin les Français ont été l'un des meilleurs publics qu'ils aient pu avoir pour un UFC, c'est quand même c'est assez gratifiant comme compliment, mais surtout ça témoigne d'à quel point le public est au rendez-vous en fait pour ça, alors même que le MMA a été légalisé que très très tardivement en France.
C'est ça, ça a vraiment explosé avec. Est-ce que pour toi, il y a des tournants, des combats, peut-être pas forcément des combats, mais moi, par exemple, là, je pense au Cyril Gane, Francis Ngannou.
Clairement. Je pense pendant longtemps, c'était il y a que, on va dire, 2 ans, hein, je crois, mais 2-3 ans.
Je crois que c'est début 2022, donc 2 ans.
Voilà, c'est ça, 2 ans. Clairement, le combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou qui s'est entraîné à Paris, qui est camerounais, mais je veux dire qui a débuté quand même sa carrière en France, c'est un combat qui a été justement assez médiatisé, qui était très important, je veux dire, pour le MMA français. Et je pense que effectivement, il a donné un peu comme ça envie aux gens de s'intéresser davantage. Moi, je l'ai vu dans mon cercle d'amis, hein, des gens qui ne suivaient pas le sport, qui ont commencé à partir de Cyril Gane contre Francis Ngannou.
Il me semble que c'est le cas d'Hugo,
qui a commencé
à regarder en direct. Il suivait
en
déjà
direct,
avant,
oui, voilà, c'est ça.
Mais regarder en direct avec ce combat-là.
Il me semble que c'est le cas d'Hugo. Après, des tournants. Je pense que l'UFC Paris a été quand même un sacré tournant.
Aussi, oui.
Mais par exemple, typiquement, je pense que la performance et la personnalité de Benoît Saint-Denis ont vraiment, je m'en rends compte aussi, hein, elles ont donné envie à énormément de personnes de s'intéresser à ce sport, parce que il a ce côté un peu guerrier ultra, très très féroce, très impitoyable, et parce qu'il a une espèce de rage de vaincre qui est assez communicative. Je pense aussi évidemment à tout le buzz autour de Cédric Doumbé, son combat contre Jordan Zebo, parce que même si ça peut être risible, ça a fait parler du MMA, ça a donné une attraction, une attente énorme autour d'un combat autour duquel il n'y avait pas beaucoup d'enjeux en soi.
C'est ça, sur le papier, c'est pas un combat qui fait vraiment vendre. Même si bon, il y a toujours ce côté ancien champion de, le poulain de Fernand Lopez contre Cédric Doumbé. Voilà, Fernand Lopez et Cédric Doumbé qui ont un petit peu un passif.
Oui.
L'un l'autre, ils s'apprécient pas énormément. Donc voilà, ça a rajouté un storytelling. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais. C'est pas anodin en fait. C'est ça, anodin. Oui. De voir par exemple des joueurs du PSG, je pense à Kylian Mbappé, assister à un combat du PFL
C'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui n'aurait jamais eu lieu avant, mais c'est un processus qui, la popularisation d'un sport qui de prime abord a l'air aussi barbare que le MMA, ça met énormément de temps. Je vais prendre un exemple, mais je disais un petit peu plus tôt que pour moi ça dépendra entre guillemets des athlètes, de ce qu'ils vont apporter, de la médiatisation, en tout cas des performances qu'ils auront, mais c'est pas si déplacé que ça, parce que au début des années 2000, faut savoir que l'un des premiers combattants à l'UFC qui a vraiment popularisé le MMA vers d'autres sphères aux États-Unis, c'était Chuck Liddell. Donc très très gros puncher de la catégorie lourd léger, et il était, en tout cas à l'époque, il était si populaire qu'il apparaît dans énormément de pubs à la télévision. À l'époque, il y avait Internet était présent, mais je veux dire la télévision c'était quand même le moyen de communication principe, en tout cas d'information principale. Donc voir Chuck Liddell faire un combattant de MMA faire des pubs pour du savon, des parfums ou des trucs du genre, c'était quand même assez, enfin faut se remettre dans le contexte. Et surtout, Chuck Liddell a fait venir quand même des superstars hollywoodiennes comme George Clooney à ses combats. Et je veux dire, le MMA n'aurait jamais intéressé ces personnes s'il n'y avait pas justement cette énorme tête d'affiche qui a été Chuck Liddell à une certaine période. Puis après, on a vu avec Conor McGregor qui fait venir Matthew McConaughey. Donc là, en France, ça s'est vu lors du combat de Cédric Doumbé où Kylian Mbappé et d'autres joueurs du PSG sont venus justement assister au combat, alors même que je ne crois pas que ce soit justement des grands aficionados d'arts martiaux mixtes.
Et c'est là, du coup, où il va y avoir un très bon point positif pour... l'avenir, on va dire, du MMA français, c'est qu'on a des personnalités, des combattants qui vont être porteurs, en fait. Mm. C'est-à-dire, on va avoir... En plus, j'en pense à deux, forcément, on l'a dit. Cyril Gane, qui est ancien champion intérimaire des poids lourds, qui a cette personnalité qui est plutôt appréciée en France.
Oui,
ce côté très humble, très sympathique, tête sur les épaules. Mm-hmm. Et à côté, on a cette personnalité un peu à l'américaine de Cédric Doumbé.
Oui.
Donc en fait, ça va plaire aux deux parties. Donc Cyril Gane peut-être plus à un grand public, à des gens peut-être moins familiers avec le MMA. Cédric Doumbé peut-être plus proche des aficionados,
clairement.
De ceux qui sont attirés par le côté showman américain. Et donc on a deux personnalités très porteuses.
C'est ça.
On se fait un petit récap, par exemple, parce que là, on a surtout dit les arguments en faveur de la nation France en tant que... De la nation France, c'est très pompeux.
la
France en tant que nation du MMA. Donc, des combattants qui performent à haut niveau et qui, en plus, mettent en avant le sport en lui-même.
Oui.
Des belles performances en amateur et une prolifération des clubs, de plus en plus d'inscrits. Donc, vraiment le circuit amateur débutant qui s'étoffe de plus en plus. Donc ça, c'est très important.
C'est important à prendre en compte, justement.
C'est très important aussi pour l'avenir, pour construire le circuit professionnel. Mmh. Il faut une base solide en amateur. Et on a également un engouement populaire autour du sport. Maintenant, moi, je vais mettre un petit bémol qui, au final, n'en sera peut-être même pas vraiment, parce que j'y ai pensé en même temps que tu discutais. Mmh. Le petit bémol, c'est que pour moi, la France, culturellement parlant, C'est pas un pays qui est vraiment attaché au sport de combat.
Bah, et pas au sport, je veux dire...
au sport individuel de manière générale.
Non, c'est vrai. Je pense que tu marques un point et je suppose que c'est pour ça que, entre guillemets, Selgan est un peu plus bankable, un petit peu plus apprécié, parce qu'on n'a pas un immense passif de sports de combat violents, genre même en boxe française ou en boxe anglaise, pardon. Bon, certes, on pourrait citer Marcel Cerdan, qui a été un immense boxeur, mais il y a quasiment un siècle, en fait, dans les années 30-40. Mais je veux dire, en dehors de Teddy Riner, citez-moi un athlète, justement, ou un combattant, dans un sport de contact, ou en tout cas où des coups sont échangés, ou même des prises ou des coups sont échangés, qui vous viennent à l'esprit.
Bah, on peut penser à Tony Yoka. Le problème, c'est que Tony Yoka, il a fait parler de lui pendant les Jeux Olympiques, mais derrière, sa carrière, c'est quand même très, très en dents de scie pour être gentil.
C'est ça. Voilà, alors, évidemment, Tony Yoka est un très, très bon boxeur, c'est pas la question, mais on n'a pas ce long héritage, justement, ce truc que les Américains ont, clairement, que ce soit en boxe ou en arts martiaux.
Surtout en boxe. Hein.
En boxe, énormément. Mais je pense, les Brésiliens, bah, on l'a vu avec Royce Gracie, qui a été le tout premier champion de l'UFC, ils ont un énorme passif aussi.
Les Russes en boxe également, on peut ensuite... Même en restant dans la Russie, donc il y a la Russie plutôt orientée boxe.
Puis même les provinces russes. Donc
et les provinces russes, le Daguestan.
Le Daguestan avec Khabib, évidemment.
La culture de la lutte, voilà. Vraiment, tout ça, c'est culturel. Le Brésil, il y a le Jiu-Jitsu qui est une institution là-bas, hein, voilà. Même si le Brésil, il y a tellement de sports.
Et on peut même ajouter au Brésil, entre guillemets, énormément de pays sud-américains. Je pense au Mexique qui a un très très long passif aussi en boxe et en... Donc bref, la France, c'est ça. J'ai pas le sentiment qu'elle a malgré tout un énorme héritage ou avec des figures comme ça assez fédératrices, mais...
Il y a Teddy Riner. Le problème, justement, je l'ai noté dans mes petites notes, c'est que en fait, le judo, déjà de 1, dans le MMA, ça a jamais été une force. En fait, il y a très peu de judokas qui se sont lancés dans le MMA.
Ronda Rousey, quand même.
Ok.
Il faut quand même citer Ronda Rousey.
Mais genre, même d'un point de vue purement technique, à part pour les phases d'amener au sol, le judo, c'est pas forcément énormément utilisé.
Bah, éventuellement pour les projections, mais c'est tout en fait.
C'est ça. Ouais, mais c'est très très limité en fait. Donc, par rapport à la boxe thaï, par rapport au jiu-jitsu ou à la lutte.
Oui.
Voilà. Donc, et surtout, même d'un point de vue purement législatif, on va dire, c'est que la fédération de judo s'est très longuement opposée à la légalisation du MMA en France. Donc le sport...
Beaucoup de lobbying de la part de la fédération de judo.
Le sport, on va dire, populaire, le sport de combat, on va dire, populaire en France, ce serait peut-être plus le judo. Mais du coup, il rentre en conflit avec... le MMA.
Ouais, qui devient un peu son rival, ouais.
Ce que je disais, c'est que du coup, c'est peut-être pas forcément le fait qu'on n'ait pas culturellement qu'on ne soit pas culturellement en France un pays de sport de combat. Ça fait que le MMA, eh ben, il a peut-être une place à prendre, en fait.
Je pense.
Il y a une place qui est libre, et j'ai l'impression qu'il est en train de la prendre, hein, là.
Tout à fait. Bah, même, en fait, on voit le... C'est peut-être pas un si bon indicateur que ça, mais je vois le... On en parlait dans des émissions précédentes, mais la profusion de ce qu'on appelle un peu méchamment les MMX, c'est-à-dire les spécialistes improvisés du MMA qui vont se mettre justement à donner des opinions, en tout cas des avis sur certains combattants.
Les fans du dimanche.
Voilà, c'est ça. On est typiquement les fans ou les sportifs du dimanche. Bah oui, mais ça montre bien à quel point le MMA est en train de casser certaines barrières en France, que ces personnes-là qui auparavant n'auraient jamais pris connaissance de certains combats, de certains événements, se mettent subitement justement à exprimer des opinions dessus, bah, parce que le sport devient de plus en plus populaire, parce que je suppose que c'est un sujet dans les cours de lycée, à la fac, dans énormément de au travail, dans beaucoup de choses comme ça. Donc le MMA en France est en train de comme ça de gravir des échelons et de casser des barrières qui jusqu'à présent le stoppaient.
Si je devais un petit peu conclure ce débat, c'est que le MMA va avoir un petit peu la mission en France de s'implanter, pas seulement d'un point de vue popularité, il ne faut pas que ce soit juste un effet de mode, mais il faut vraiment que ça s'implante culturellement. Oui. Si on veut à terme un jour avoir qu'on veut que la France soit une grande nation, à l'instar des États-Unis, de la Russie ou du Brésil.
Je suis tout à fait d'accord. Et voilà, je pense qu'on aura probablement la réponse à la fin 2024.
Je pense pour moi, c'est vrai, ça va vraiment être du très très long terme. Il va falloir voir les
non, bien
5,
sûr, bien sûr, mais
10 prochaines années, là on aura la réponse.
Bien sûr, mais si Manon Fiorot devient la championne justement de la catégorie poids mouche pour à l'UFC, que Benoît Saint-Denis bat Dustin Poirier et que Cyril Gane arrive comme ça à retenter sa chance pour devenir champion poids lourd, bah déjà ça nous fera un sacré trio de têtes pour porter les
bien porteurs.
Ouais, porter le drapeau français.
C'est ça. Voilà un petit peu pour le débat. C'était intéressant. On aurait pu continuer un petit peu. Malheureusement,
il y a beaucoup de choses à dire.
Malheureusement, on doit rendre l'antenne. On a fait le tour. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci de votre écoute.
Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Voilà. Émission plus tranquille. Voilà. À deux seulement. À trois, on compte en Nora, évidemment. Excuse-moi, Nora. D'ailleurs, merci encore une fois,
Nora.
Merci
pour la technique.
C'est ça. Toujours à l'affût.
Toujours un plaisir.
Merci beaucoup. N'oubliez pas, la première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, @lebagarreclub. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club.